Il est 6h22, on revient ce matin sur Parcoursup, la nouvelle plateforme d'inscription dans le supérieur pour tous les lycéens en terminale et qui a révélé de nombreux couacs à l'heure du verdict cette semaine. Certains, 30 000, ont essuyé des refus, d'autres restent en suspens avec le stress de ne pas savoir où ils atterriront en septembre, une attente qui pourrait durer plusieurs semaines pour 400 000 d'entre eux. Notre invité a 22 ans, il est passé de l'autre côté, il est étudiant en informatique et il a voulu percer les mystères de Parcoursup et de ses critères. Bonjour Guillaume Ouattara.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, pour ça, vous avez décrypté les algorithmes de Parcoursup, fallait y penser. Vous avez étudié ce qu'on appelle son code source. Le code source d'abord, c'est quoi et comment vous avez fait ?
Alors le code source, c'est l'ensemble des règles qui régissent la plateforme admission Parcoursup, pardon, la nouvelle plateforme Parcoursup. Donc c'est un certain nombre de règles informatiques qui sont codées dans un langage spécifique. Et comment j'ai fait ? Bah simplement, le ministère a publié lundi, donc la veille de la publication des résultats, l'intégralité du code source qui régit une partie de la procédure Parcoursup. Et donc simplement, il fallait se rendre sur une plateforme en ligne où ils ont hébergé tous les documents. Il y avait une quarantaine de fichiers informatiques et un document de 18 pages qui détailler pas à pas comment justement cette plateforme est fonctionnée et les critères qui étaient utilisés pour ces fonctions-là.
Donc je crois que ça vous a pris une bonne après-midi d'éplucher tout ça avant de voir ce que vous avez trouvé. Pouvez-vous nous récapituler, Guillaume Ouattara, peut-être les trois étapes de Parcoursup, qu'on ait ça bien en tête?
Alors, les trois étapes de Parcoursup, c'est dans un premier temps des candidats qui formulent différentes candidatures dans des formations. Donc ils font ce qu'on appelle des vœux. Par exemple, je veux rejoindre une fac d'histoire, une fac de médecine. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, les formations reçoivent ces candidatures et donc ça peut être des formations sélectives qui étaient déjà habituées à faire un tri, donc qui vont trier ces candidatures, dire premièrement on veut ce candidat, deuxièmement ce candidat, et puis aussi les formations non sélectives à la fac qui procèdent exactement au même tri avec les mêmes outils. Donc deuxième étape, le tri des candidatures, et puis la troisième étape, c'est l'envoi des réponses via la plateforme Parcoursup aux candidats. Et ce qu'on découvre avec l'analyse du code, c'est que cette étape où on se disait simplement bah c'est une mise en relation, non, Parcoursup vient refaire un tri par-dessus le tri déjà effectué par les formation.
Vous voulez dire qu'il y a un deuxième algorithme qui vient retrier les cartes ?
C'est ça. Il y a des algorithmes locaux avec des critères qui vont être fixés université par université, comme la moyenne, les appréciations de professeurs, la fiche à venir aussi. Et il y a un algorithme national qui va fonctionner sur deux critères. Le premier critère, ça va être le taux de boursier, donc il faut un taux minimum de boursier. Et le deuxième critère, c'est la résidence. On a un taux maximum de non-résidents, donc de personnes qui ne sont pas de l'académie pour les formations non sélectives, donc à l'université.
Donc Parcoursup, en fait, l'algorithme de Parcoursup, cette dernière étape, ne trie pas les candidats sur des critères académiques, mais plutôt sur des critères sociaux ou géographiques, c'est ça ?
C'est ça, sur des critères sociaux.
Alors, ce que vous avez quand même découvert, Guillaume Ouattara, c'est que le premier algorithme, celui des facs, celui des écoles, celui le premier qui rentre en jeu dans toutes ces étapes, si je vous suis, c'est que là, vous n'avez pas accès à ça.
On n'a absolument pas accès. En fait, chaque école, chaque faculté, chaque licence utilise les critères qu'elle veut, les outils qu'elle veut. Alors, le ministère a proposé ce qu'on appelle un outil d'aide à la décision. C'est comme un gros fichier Excel sur lequel on vient tripatouiller différents critères et on vient pondérer, mettre des notes et on a une liste de candidats et ça, on n'y a pas accès. Les formations ne le publient pas. Le ministère a dit il faut garder un peu le secret du jury, mais c'est finalement l'algorithme le plus important dans Parcoursup.
Et oui, ça veut dire quoi qu'à terme, Guillaume Ouattara, que les universités font absolument ce qu'elles veulent, qu'elles trient sur des critères comme bon leur semble ?
Elles trient vraiment comme elles veulent. Il y a par exemple des universités qui décidaient de favoriser les étudiants qui venaient de lycées avec des bons taux de réussite au bac. Donc c'était un critère qui était utilisé. D'autres, pas toutes, mais ont choisi de pénaliser les élèves qui avaient redoublé. Et ça, elles ont pu le faire vraiment sans aucun contrôle. Donc on imagine que les commissions ont quand même travaillé sérieusement. Mais voilà, il y a ces critères qui sont très opaques et il y a une opacité qui s'est renforcée avec Parcoursup.
Il peut y avoir certains critères discriminants ou abusifs ?
C'est la question qui se pose. C'est les fantasmes aussi qui naissent en ce moment sur les réseaux sociaux. Et je ne pense pas honnêtement qu'il y ait eu de discrimination, mais certains élèves se posent des questions. Et c'est vrai que publier tous ces algorithmes locaux, ou en tout cas leur mise en œuvre, ça permettrait de clarifier et d'éviter toutes les suspicions.
C'est ce que vous demandez ? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable aujourd'hui ?
Ah, c'est tout à fait envisageable. Mais le problème, c'est que certaines formations ont utilisé des algorithmes, donc quelque chose de figé. D'autres l'ont fait à la main, ont pris les candidatures, les ont triées les unes avec les autres. Donc il y a aussi cette part un peu de subjectivité qui entre en compte et qui est difficilement explicable.
Donc en fait, vous êtes en train de nous dire qu'il y a, contrairement à ce que répète le gouvernement, une sélection à l'entrée des facs, une sélection qui n'est pas transparente en plus.
Alors en tout cas, d'un point de vue technique, moi je parle technique, on fait des listes, informatiquement, on fait des listes, on a des critères. Moi, j'appelle ça une sélection. Peut-être que politiquement, ça passe un peu moins bien, mais effectivement, on fait des listes, donc c'est pas autre chose qu'une sélection.
Par rapport à APB, là, c'est quoi la différence?
Alors, il y a deux différences majeures. La première différence, donc, c'est qu'avant, APB, pour les formations qui étaient dites non sélectives, donc à l'université, ne triait pas, enfin, triait lui-même les candidats. L'algorithme triait les candidats, c'était pas les universités qui le faisaient. Et la deuxième difficulté qui explique, la deuxième différence qui explique là, les difficultés qu'on voit avec ces files d'attente à rallonge, c'est qu'avant, sur APB, les candidats triaient leurs vœux. C'est-à-dire que quand ils candidataient dans des formations, ils mettaient un ordre de préférence. J'ai envie d'aller en médecine mon premier, deuxième en fac de droit, etc. Là, le changement, c'est que les candidats ne trient plus leurs vœux. Alors avant, le tri des vœux, ça faisait que dès qu'on était pris dans une formation, on annulait automatiquement les demandes qu'on avait en dessous et elles étaient redispatchées à d'autres étudiants. Et ça, c'était avant l'ouverture de la plateforme. Et c'est ce qui explique que ça allait très vite. Là, en fait, les étudiants n'ont pas trié leurs vœux, donc ils peuvent être pris dans plusieurs formations à la fois. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que les bons élèves, avec des bons dossiers, ils sont pris absolument partout. Ils squattent des places, pendant que les élèves un peu moins bons, pas forcément mauvais, mais un peu moins bons que les très excellents, et bah, ils sont en attente que ces bons élèves disent, bah, je viendrai pas finalement là.
Vous dites aussi qu'il y a un risque d'overbooking, c'est ça, de se retrouver avec des facs ou des écoles qui vont prendre 200, 250 personnes en espérant que finalement il n'y en aurait que 50 à la fin?
C'est ça, parce que les facs aussi voient les candidats qui arrivent au compte-gouttes et donc elles sont obligées d'overbooker, de dire oui à plus de candidats. Par exemple, une fac qui a 50 places va dire, bah, l'an dernier on est allé chercher jusqu'au 300e de notre liste, donc on va accepter 350 personnes. Donc c'est le risque avec cette plateforme Parcoursup.
Vous connaissez des lycéens, Guy Ouattara, qui sont aujourd'hui dans l'attente? Dans quel état sont-ils?
Bah, ils sont stressés. Ils sont stressés. Et puis moi, il y a quelque chose avec cette procédure au fil de l'eau qui permet de réguler un peu les places. C'est qu'on parle souvent en entreprise du droit à la déconnexion, de dire je m'éloigne des outils. Là, ce droit à la déconnexion, il n'est pas donné aux lycéens qui sont obligés de se connecter tous les matins, qui reçoivent des notifications. Ça peut arriver pendant qu'ils sont en cours, pendant qu'ils sont même en contrôle. Et il y a beaucoup de stress. Moi, j'ai passé cette procédure APB il y a 5 ans et je me rappelle que c'était très stressant en une phase. Alors si j'avais dû me connecter tous les jours, c'est beaucoup de stress pour les candidats.
Et ça peut durer effectivement plusieurs semaines, voire quelques mois. Si tout ça n'est pas assez clair, je vous encourage, chers auditeurs, à aller voir sur Brut la vidéo où notre invité détaille ses recherches, sur son blog aussi, Ingénieux Ingénieur. Guillaume Ouattara, merci d'avoir épluché les algorithmes de Parcoursup pour nous. Et puis bon retour à Compiègne. Merci d'être passé nous voir. Au revoir.
Au revoir.